Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être avec nous ce soir. C'est une joie et un privilège que le Seigneur nous accorde de pouvoir échanger ce soir autour de la parole de Dieu. Donc, ce soir nous allons partager. Nous sommes le dimanche 19 juillet 2025. Je suis votre frère Évrard et je suis là pour échanger avec vous pendant quelques minutes sur la parole de Dieu. Donc sans plus tarder, je propose que nous prions. Pour ceux qui sont dans un endroit, ils peuvent prier pour. Puis nous allons partager. Seigneur, nous te bénissons et te louons pour ce temps de partage, ce temps que tu permets, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tu disposes nos cœurs et que nous puissions écouter et recevoir la vérité qui vient de toi. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, ce soir. Je voudrais partager quelques paroles d'encouragement avec l'Église, avec les frères, parce que vous voyez, malheureusement aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous donnons nous-mêmes à l'ennemi, comme on dit l'expression, donner le bâton pour se faire battre. Parce que nous avons aujourd'hui dans l'Église des pratiques, des choses, des actions que nous posons qui sont de nature à donner au diable raison dans ce qu'il fait. Et vous pouvez suivre aujourd'hui l'actualité qu'il y a pas mal de reproches qui sont faits à l'Église et qui font l'objet justement de certaines critiques, à juste titre parfois, mais qui donnent l'occasion justement à l'ennemi de dire des choses hein, en profitant des lacunes de l'Église pour pouvoir s'engouffrer. Hein. Donc, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, qu'ai-je à juger ceux du dehors, n'est-ce pas? Qu'ai-je à juger ceux du dehors? On peut le lire rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 5 pour qu'on comprenne le contexte dans lequel nous allons évoluer ce soir dans 1 Corinthiens chapitre 5. Alors, je vais lire. Paul dit au verset 12, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc vous voyez, en tant que chrétien, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde qui nous intéresse, du moins en termes de jugement. Mais par rapport à l'Église, lorsque des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu se passent, tous en tant que chrétien, qu'on soit pasteur, prophète, docteur, simple fidèle, même si je n'aime pas trop cette expression, simple fidèle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de ministère, cinq ministères de la parole, parce que tous les chrétiens ont un appel, ça c'est sûr. Voilà, qui n'est pas dans les cinq ministères de la parole d'Éphésiens chapitre 4, peu importe ton titre, ton rang social, tu as cette prérogative, cette possibilité que Dieu te donne dans la parole de juger les choses qui sont faites et de les condamner. Jésus va dire, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses par Paul, mais plutôt condamnez-les. Et aujourd'hui, on peut constater qu'il y a aujourd'hui trop de dérives, énormément de dérives. Et ces dérives-là ont deux choses. La première des choses, c'est qu'elles font perdre aux chrétiens qui sont dans les églises la foi. Et la deuxième chose, c'est qu'elles donnent aux inconvertis le dégoût de venir dans l'église. Ou sinon, quand ils viennent dans l'église, ils viennent avec une mauvaise perception de la foi. Et la troisième chose, c'est que les ennemis du Seigneur, ben, s'en servent pour pouvoir attaquer l'Église. Vous voyez, quand on voit toutes ces choses qui se font aujourd'hui, dont on va parler là, on comprend que le diable est à l'œuvre. Donc, sans plus tarder, on va prendre des passages dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Alors, je vais lire à partir du premier verset pour qu'on puisse mieux cerner le contexte. Il est écrit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe du retour de Jésus et de la fin du monde? Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a beaucoup de séduction aujourd'hui. » C'est un avertissement que le Seigneur a donné aux chrétiens en disant, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est principalement de ça dont je voudrais parler ce soir. Pour dire aux chrétiens, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu évangélique, il y a beaucoup de séduction. Quand je dis le milieu évangélique, je ne parle pas des chrétiens seulement évangéliques. Hein. C'est le milieu, là où on parle de l'Église, d'accord? Que ce soit l'Église romaine, que ce soit les églises dites de réveil, que ce soit dans les églises dites traditionnelles, en tout cas partout là où on fait un lien avec la Bible, avec le Seigneur Jésus, ben aujourd'hui, il y a beaucoup de séduction, beaucoup, énormément de séduction. Et Jésus continue plus long au verset 5 en disant, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et plus loin, il continue en disant, au verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Il faut comprendre ici que quand Jésus dit prophète, dans le contexte, à cette époque, on n'avait pas les apôtres. On n'avait pas les docteurs, il y avait les docteurs de la loi. On n'avait pas les évangélistes, parce que Jésus n'était pas encore mort. Donc l'Église n'était pas encore née. Donc dans la pensée prophétique de ce verset biblique, en fait, il faut comprendre qu'il y a les cinq ministères à l'intérieur quand Jésus dit plusieurs faux prophètes viendront. Donc là-dedans, vous avez des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux pasteurs, des faux docteurs. Vous voyez, des faux diacres, des faux anciens, des faux musiciens, des faux chantres. Vous avez de tout à l'intérieur. Tout ce qui est faux et qui est en relation avec l'Église, vous avez là le vrai, vous avez la copie. Parce que la Bible nous dit, dans la parabole de Matthieu 13, la Bible nous parle justement du blé et de l'ivraie. Le blé et l'ivraie qui sont deux catégories. Et la Bible nous dit qu'après que le propriétaire du champ avait planté le blé, l'ennemi, son ennemi va venir pour planter l'ivraie. Et quand vous faites des recherches sur Internet, il n'y a quasiment aucune différence entre le blé et l'ivraie. La seule différence, ce sont les fruits, la qualité des fruits. D'autres sont comestibles et d'autres l'autre ne porte pas de fruits. C'est-à-dire que vous avez la germe qui est là, mais il n'y a pas de fruits à l'intérieur. Donc, le blé est livré. Donc, Jésus avertit en disant, « Prenez garde, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Il dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, c'est un avertissement du Seigneur que beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux docteurs, de faux évangélistes, avec un faux évangile, avec des faux miracles, avec des faux témoignages, viendraient pour troubler l'Église. Et on le voit aujourd'hui de plus en plus. On le voit aujourd'hui de plus en plus. Je pense que si aujourd'hui, on demande à chacun d'appeler et de témoigner par rapport à cette affaire-là, les faux témoignages qu'on a vus, ben on voit de tout. Des diacres, des anciens qui sont impudiques, qui trompent leurs femmes, qui tapent leurs femmes à la maison, qui volent dans les caisses des sociétés pour ceux qui travaillent parfois, qui sont des voleurs dans les sociétés, qui volent le matériel pour aller revendre. Il y a de tout ça. Il y a de tout ça. Des pasteurs escrocs. Il y a de tout ça. Donc, Jésus met en garde et nous allons voir en fait que cette affaire de faux prophètes là existe depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps. Et vous avez par exemple à l'époque de Jérémie, d'accord ? Lorsque Jérémie prophétisait, il y avait des faux prophètes qui venaient et qui venaient contredire le message de Jérémie. Je pense à cette histoire où il y avait ce prophète de la Bible, son nom vient de m'échapper, là ça m'était venu là, mais ça m'a échappé, ça me reviendra, qui a prophétisé contre Akab, et les prophètes d'Akab venaient pour dire que les prophéties que cet homme disait n'étaient pas correctes. voyez? Et la Bible nous fait comprendre que dans le royaume de Dieu, dans le ciel, Dieu va dire qui sortira et qui séduira Akab. Et la Bible nous enseigne qu'un ange, un esprit, pardon, va sortir et va dire, je sortirai et je le séduirai. Le Seigneur va lui demander comment. Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Dans la bouche de ses prophètes. Et c'est comme ça, justement, que Akab a été séduit. Et donc, on comprend que par les prophètes, il y a beaucoup de séduction. On peut amener quelqu'un au mensonge. On peut amener quelqu'un à se détourner. Et Akab est mort parce que l'esprit de mensonge était rentré dans la bouche des prophètes qui avaient séduit Akab et qui ont amené Akab à la perdition. Donc, frères et sœurs, il faut faire attention aujourd'hui. Il faut faire preuve de beaucoup, mais beaucoup de discernement. Il faut prier. La Bible nous dit, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais plutôt éprouvez-les. Il faut aujourd'hui éprouver les esprits. Même quand vous voyez les miracles, même quand vous voyez parfois on prêche la sainteté, regardez les œuvres. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui prêchent la sainteté, qui disent qu'il faut se sanctifier, mais qui derrière eux-mêmes ne vivent pas la vie de sanctification qu'ils demandent aux gens de vivre. Vivez la sanctification parce que c'est biblique. D'accord? Mais prenez garde parce que ça peut être une séduction, c'est-à-dire on veut vous tenir sous un joug, c'est-à-dire qu'on vous annonce la sanctification, on vous annonce un évangile vrai, mais derrière on vous dépouille, par exemple financièrement. Derrière on vous prend en esclavage. Vous voyez, il faut faire, pour être beaucoup prudent aujourd'hui. Alors, on va lire un texte dans la Bible. On va lire un texte. Alors, on va prendre. Alors, je recherche rapidement mon texte. Voilà, on va prendre 1 Roi chapitre 13 à partir du premier verset. C'est une histoire que nous connaissons tous, qui est l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Donc, dans 1 Roi chapitre 13, la Bible nous dit, voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole de l'Éternel, de l'homme de Dieu, pardon, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit. Et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu et par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit, homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, la Bible nous dit que l'histoire va être racontée dans la ville, et il avait dans cette ville, alors on va lire, je vais aller directement. Alors, je vais lire la suite. Au verset 11, or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel, un vieux prophète que Dieu n'avait pas utilisé. Dieu avait suscité un autre prophète qui revenait de Juda, d'accord, qui est arrivé à Bethel. Bethel qui veut dire Bethel, Beth maison, El Dieu, donc Beth la maison de Dieu, Bethel. Ce prophète-là n'avait pas été utilisé par Dieu. Peut-être parce que c'était un vieux prophète, peut-être parce que ben, il n'avait plus de relation avec Dieu. Mais c'était quelqu'un qui était un prophète, mais un vieux prophète. Et la Bible nous dit que ce jour-là, il va aller, il va rencontrer cet homme. Et il va lui dire, regardez par la suite, il va le retrouver. Et la Bible nous dit au verset 13, et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et lui scellait un âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébenthe et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Un prophète de Dieu qui ment à un autre prophète pour le séduire. Et la Bible dit que cet homme-là va le suivre. Et le même faux prophète qui avait menti, puisque c'était le seul qui était là, Dieu va prophétiser pour dire au jeune prophète que puisque tu as désobéi à la parole que je t'ai donnée, le lion te mangera. Et ce jeune prophète a été tué par un lion. Il a été tué par un lion. Qui l'a gardé, qui ne l'a pas dévoré. Et c'est ce même vieux prophète qui est venu prendre son corps pour aller l'enterrer et qui disait, hélas mon ami, hélas. Vous voyez, la séduction, frères et sœurs, conduit à la mort. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque la séduction arrive, elle a pour objectif de détruire les vies des gens. Elle a pour objectif de détruire les vies des gens. On a entendu tellement de témoignages. Des familles qui avaient l'argent, qui se sont retrouvées dépouillées par les prophètes, dépouillées par des prédicateurs, dépouillées dans les églises. Des familles qui étaient unies, qui se sont retrouvées divisées. La femme qui a été prise par un pasteur, le mari qui a abandonné la femme, les enfants sont devenus, au milieu, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Donc les enfants sont victimes, livrés à l'ennemi, deviennent des délinquants. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Les divorces à cause des mariages organisés par les pasteurs. Dieu m'a dit que voilà ta femme. On choisit des femmes pour les gens. On fait les placements. Ça, c'est le bon petit du pasteur. La bonne sœur là qui travaille dans une bonne société de la place, qui a un peu de moyens, on la place avec quelqu'un. Et au bout d'un temps, le mariage ne tient pas à des divorces. Vous allez au tribunal, vous discutez avec les gens qui travaillent dans le tribunal, ils vous diront que beaucoup de chrétiens, et que parfois, le nombre de dossiers qu'il y a, il y a parfois plus de chrétiens dans les nombres de dossiers des divorces, ce qui n'est pas normal dans l'Église. Mais je ne mets pas la responsabilité des divorces uniquement aux Églises, parce qu'il y a aussi des gens qui ont fait des choix par eux-mêmes, et qui ont fini par divorcer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une partie de responsabilité dans les églises, parce que parfois, il y a des mariages qui sont organisés. Regardez aujourd'hui, quelqu'un se marie, on écarte la famille des mariés, le père, la mère, et c'est l'église qui organise, ce n'est pas biblique. Dieu n'a pas établi l'église pour organiser les mariages. Laisse tes parents organiser ton mariage. Ce sont tes parents. Alléluia. Dieu ne nous a pas établis prédicateurs de la foi pour marier les gens. Toutes ces doctrines qui sont venues rentrer dans l'Église, la bénédiction nuptiale, il n'y a aucune trace de toutes ces choses dans la Bible. Aucune. Aucune trace. Et ce sont des traditions. Et Paul, la Bible met en garde en disant, prenez garde aux traditions. Prenez garde aux traditions. Vous voyez? Vous allez me dire, ok, en quoi est-ce que le mariage, la bénédiction nuptiale est dangereuse? Mais il n'y a rien dans la Bible déjà premièrement qui recommande de le faire. Vous allez me dire qu'est-ce que tout ce qu'on fait est écrit dans la Bible. Mais en termes de doctrine, tout ce qu'on doit faire doit être basé sur ce que le Seigneur a enseigné. En termes de doctrine, c'est ce que le Seigneur a fait qu'on doit reproduire. On ne peut pas créer d'autres doctrines. Vous voyez? Voilà, maintenant derrière, ça peut laisser penser quoi? Que celui qui bénit le mariage, qui proclame les paroles de bénédiction, que celui qui bénit. Et donc, on a parfois du mal à être même en contradiction avec lui, même quand on sait qu'il est dans le faux, parce qu'en griffe, c'est lui qui a béni. Alors que celui qui a béni le mariage, ce sont les parents lors du mariage familial. du mariage coutumier. Vous voyez? C'est lui qui donne sa fille. On dit « je donne ma fille en mariage » et symboliquement, par exemple, chez nous au Gabon, on prend la femme, on la dépose de l'autre côté parce qu'il y a deux, souvent deux côtés, le côté du mari et le côté de la femme. On la prend, on met une chaise et on la dépose là-bas en disant « voilà ta famille ». Et on prend le mari, on le met de l'autre côté en disant « on t'accueille comme notre fils ». Donc, c'est ça quand on dit « le père donne sa fille en mariage ». Vous voyez ? Donc, il y a tellement de choses comme ça pour lesquelles, frère, nous avons besoin de revenir à l'Évangile. On a besoin d'encourager les gens à se marier, mais à se marier conformément à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que les familles marient eux-mêmes leurs enfants. En tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, nous assistons notre frère, nous assistons notre sœur qui se marie, nous l'accompagnons, nous sommes membres de l'organisation, mais nous ne sommes pas ceux qui dirigent. L'organisation doit être dirigée par la famille. Nous ne devons pas. Il y a des mariages, là où vous arrivez, à la table d'honneur, c'est tous les pasteurs. Les parents sont relégués au second plan. Tu as tes parents qui sont vivants. Le mari, la femme, personne de vos parents ne sont vos témoins. Il n'y a que les hommes de Dieu, les frères et les sœurs de l'Église. Il n'y a aucune personne dans ta famille qui a quand même un peu de moralité, qui a quand même été un exemple, qui peut être ton témoin, même par reconnaissance, parce que cette personne a peut-être payé tes études. Vous voyez, c'est toutes ces dérives-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, l'Église, d'accord, a perdu la place qu'elle avait dans la société. Elle qui est la lumière du monde et qui est censée être celle qui est claire, d'accord, s'est détournée du droit chemin pour aller dans beaucoup de choses. Donc, pour revenir au passage de 1 roi 13 de ce faux prophète, de ce jeune prophète qui a été trompé, ben, on voit qu'il est mort. Donc, la séduction conduit à la mort. Elle conduit à la mort quand on n'a pas le temps de se repentir et d'en sortir. Elle conduit à la mort, la séduction. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de vigilance, de beaucoup de discernement. On a un autre exemple dans la Bible. On a les enfants d'Israël qui ont été délivrés par le Seigneur de l'Égypte. Alors qu'ils étaient en train de conquérir le pays dans le livre de Josué, la Bible nous fait comprendre qu'il va y avoir un peuple, les Gabaonites, qui viendront vers eux pour sceller une alliance. Ils avaient mis des vieux habits, ils avaient pris du vieux pain, ils avaient pris des vieilles outres et ils étaient venus vers les enfants d'Israël, les Hébreux, pour les tromper en leur disant qu'ils habitaient loin alors que c'était leurs voisins. Et la Bible nous fait comprendre que ces gens-là, parce qu'ils les ont séduits, parce qu'ils les ont trompés, sont demeurés avec eux, parce qu'ils leur avaient fait la promesse de ne jamais les détruire. Et ces gens sont restés avec eux. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons faire preuve de beaucoup de prudence. Parce que sinon, au lieu d'avancer avec le Seigneur, ben on va s'attirer des choses compliquées. On doit faire attention aux alliances qu'on fait. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui veulent grandir dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens veulent avoir un grand ministère et ils vont faire plein d'alliances avec plein de gens. Mais frères et sœurs, aujourd'hui, c'est prouvé qu'il y a des pasteurs qui vont voir les marabouts pour chercher l'onction, pour faire tomber les gens. Jésus n'a pas, l'onction du Saint-Esprit n'est pas donnée pour faire tomber les gens. Et vous aussi, chrétiens, vous aimez ça quand vous faites tomber. Vous ne voulez pas qu'on vous prêche l'Évangile pour que vous laissez vos cœurs être transformés par l'Évangile. Vous voulez l'imposition des mains à tout prix. Vous voulez à chaque fois qu'on vous impose les mains, vous voulez à chaque fois qu'on vous donne une prophétie. Homme de Dieu, tu as reçu quoi pour moi aujourd'hui? Frère, tu as reçu quoi pour moi aujourd'hui? Dieu parle à chacun de ses enfants. Il dit « Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. » Si tu es brebis du Seigneur, tu entends la voix de Dieu. Dieu te parle. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te donner une prophétie. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous dit qu'il a établi des ministères, les dons de prophétie, les ministères de prophétique. Il y a les songes, il y a les visions. Dieu peut parler à un frère, à une sœur, de quelque chose, mais ce ne sera pas toujours comme ça que Dieu va te parler. Et ça ne doit pas être toujours comme ça. Parce que c'est ce qu'on appelle la dépendance. Et là, tu deviens esclave parce que peu importe ce qu'on viendra te dire, tu prendras et tu boiras et tu appliqueras et tu deviendras esclave des hommes. Donc, on va prendre un autre passage. Dans 2 Jean, chapitre 1, verset 8. Alors, je vais lire à partir Verset 7. C'est Jean, l'apôtre Jean, qui a marché avec le Seigneur Jésus, qui est déjà vieux, qui écrit. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, donc ne connaît point Dieu, ou n'est point connu de Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Un avertissement de l'apôtre Jean qui a marché avec le Seigneur Jésus, du séducteur. Et aujourd'hui, si on veut parler de séduction, on a plusieurs exemples de doctrines qui sont des doctrines de séduction. L'une des doctrines qu'on a, qui est une doctrine de séduction par exemple, on ne perd pas le salut. On est chrétien, sauvé une fois, sauvé pour toujours, tu as accepté Jésus, tu as fait la prière de repentance, comme on l'appelle, Seigneur Jésus, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur, je t'accepte dans mon cœur, reçois-moi. Une prière dans ce sens-là. Et on dit, tu es maintenant membre du royaume de Dieu, tu es maintenant chrétien. Et sauvé une fois, sauvé pour toujours. Tu peux vivre ta vie, tu peux vivre dans l'impudicité, tu peux vivre dans l'adultère, dans le vol, dans la pratique du mensonge. Tu peux vivre dans la haine, la colère, la jalousie, la convoitise, la sorcellerie. Tu peux vivre dans toutes ces choses-là. Et tu es déjà sauvé. Ça, c'est une fausse doctrine. Elle n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Rien à voir. Elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Une autre doctrine, par exemple, qu'il y a, ben, on a par exemple l'évangile de la prospérité. Ben, qu'est-ce que l'évangile de la prospérité enseigne? Ça enseigne que Dieu veut que tous les croyants soient riches, en bonne santé et qu'ils ne souffrent pas. Tous les chrétiens. Ce qui n'est pas compatible avec l'évangile. Jésus-Christ dit que pour être digne de lui, nous devons participer à ses souffrances. Donc on a l'exemple de ceux qui ont servi Jésus. On a eu Pierre qui a été crucifié, selon l'histoire. Ce n'est pas dans la Bible, mais les livres historiques le disent. On a un autre exemple dans la Bible. On a Étienne qui a été lapidé. Ça, c'est écrit dans la Bible. La Bible nous fait comprendre que Saul, qui est devenu Paul, allait de ville en ville pour arrêter les disciples. Et il y avait une forte persécution auprès des enfants de Dieu. Les chrétiens étaient persécutés. Et la Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Persécutés. Donc, je crois, c'est écrit dans la Bible, que Dieu bénit. Maintenant, la bénédiction de Dieu ne veut pas dire le matériel. Parce que c'est ça, en fait, quand dans l'esprit des chrétiens, quand on dit bénédiction, on voit matériel. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu peut bénir tes enfants, qu'ils fassent des bonnes études, qu'ils soient doux, des enfants obéissants. C'est une bénédiction. Dieu peut t'accorder la santé, que tu ne sois jamais malade. C'est une bénédiction. Dieu peut t'accorder que toute ta famille se convertisse. C'est une bénédiction du Seigneur. Dieu peut t'accorder que tu crées une entreprise qui devienne prospère, riche, qui emploie des gens. C'est une bénédiction. Dieu peut t'accorder d'avoir des enfants alors que quelqu'un à côté n'a pas d'enfants. C'est une bénédiction. Donc la bénédiction de Dieu n'est pas liée à l'argent, n'est pas liée au matériel, n'est pas liée à la santé uniquement. La Bible nous dit que Paul avait une écharpe, il était malade et il va dire « 3 fois j'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a dit « ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Et on voit Paul qui écrit à Timothée, qui dit à Timothée, « Ne bois pas seulement de l'eau à cause de tes fréquentes indispositions, mais prends également un peu de vin. » Parce que Timothée avait des indispositions, je crois au niveau de l'estomac, il devait avoir ce qu'on appelle un ulcère peut-être d'estomac, quelque chose en tout cas qui le gênait. Et Paul qui avait cette onction quand même qui était reconnue dans la Bible. Il a prié une fois pour un jeune homme dans Actes chapitre 21 qui est tombé du toit toute la nuit. Après avoir prêché l'évangile toute la nuit, il a prié pour lui, il est revenu à la vie. On voit les miracles que Paul a opérés, mais il a prié pour Timothée. Jésus n'a pas guéri Timothée. Paul lui-même n'a pas été guéri par Jésus. Donc, on ne peut pas dire que les chrétiens doivent vivre dans l'abondance excellence. Non. Quand Jésus dit qu'il est venu pour qu'on vive dans l'abondance, ce n'est pas cette abondance excellence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans le plan de Dieu pour nous, que Dieu nous donnera, mais nous n'aurons pas tout. Tout ce qu'on veut. On va être riche, on va avoir une grosse voiture, on va avoir un jet, on va avoir les maisons, on va avoir un compte bancaire, on va avoir l'onction plus, on va avoir tout ce qu'on veut. C'est une fausse doctrine. Alors, une autre doctrine, par exemple, qu'on est sauvé par les œuvres. Uniquement par les œuvres. Ouais, la Bible dit que, or la Bible enseigne que la foi sans les œuvres est vaine. Ça veut dire qu'on est sauvé par la foi. Ce qui nous sauve, c'est la foi. Mais cette foi-là, dès qu'elle nous a sauvés, doit nous accomplir, doit nous conduire plutôt à avoir des œuvres de Dieu. Et c'est ce que le livre de Jacques nous enseigne, que la foi sans les œuvres est morte. Donc il faut avoir les œuvres. C'est quoi ces œuvres? Il faut prier, il faut méditer, il faut se sanctifier, il faut se souvenir des pauvres, des orphelins, des veuves. Il faut être comme Jésus. Or, Jésus était saint, mais en même temps, Jésus posait des œuvres, il nourrissait des gens. Voilà, il nourrissait des gens, il guérissait des malades, il s'occupait des gens. Vous voyez, Jésus faisait ces choses. Donc, il y a tellement de doctrines, doctrine de la prospérité, la cure d'âme, il faut faire les cures d'âme aux gens. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que lorsque nous sommes convertis, que Dieu nous sauve, nous sommes transportés du royaume des ténèbres pour être amenés dans le royaume de lumière. Dieu nous délivre et nous sommes cachés avec Christ en Dieu, en Dieu. Dieu ne peut pas prendre quelque chose qui est impur pour l'amener en lui, ce n'est pas possible. La première des choses que Dieu fait, il nous justifie, il nous sanctifie, d'accord, et il nous purifie. Et quand nous sommes purifiés, il nous met en lui. Il dit aux apôtres, Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez? Pierre va dire à Jésus, quand Jésus va leur dire, si je ne te lave point les pieds, tu ne peux pas arrêter avec moi. Il va dire à Jésus, Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi le corps. Et Jésus va lui dire, non, celui qui est déjà lavé et qui est pur, il a juste besoin de se laver les pieds. Si tu t'es déjà lavé et que tu as marché, tu n'as plus besoin de te relaver, tu as juste besoin de laver les pieds parce que tu as marché. Vous voyez? Donc nous sommes purs. Maintenant, dans la marche, quand nous péchons, la Bible nous dit, il est juste, il est bon pour nous purifier de toute iniquité parce que nous avons péché. Vous voyez? On n'a pas besoin de cure d'âme, de faire un recensement de tous nos péchés, des totems, de notre famille, de nos tribus, de ceci, de cela, pour avoir la délivrance. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas, qui fréquentent les églises et qu'on appelle chrétiens, ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas nés de nouveau, n'ont pas rencontré Jésus. Ils ne sont pas convertis. Et comme ils ne sont pas convertis et qu'ils sont dans les églises, ben, voilà, ils vivent leur vie et ils pensent que la vie qu'ils ont, c'est ce qu'un chrétien doit avoir. Ils couchent, ils ne sont pas mariés, ils couchent, et en même temps, ils se plaignent d'avoir les maris de nuit. Mais comment veux-tu ne pas avoir les maris de nuit quand tu ouvres des portes? Enfin, quand je dis même ouvrir des portes, c'est une façon de dire, parce qu'un chrétien ne peut pas coucher volontairement. Il peut arriver qu'un chrétien tombe, mais il va se repentir. Du moins, il va avoir la tristesse dans son cœur qui conduit à la repentance. Maintenant, il peut décider de ne pas se repentir. Mais au moins, il va avoir ce désir de se repentir. Et la repentance, ce n'est pas pleurer. La repentance, c'est abandonner ce qu'on fait, demander pardon et abandonner. C'est ça, la repentance. Vous voyez? Donc, il y a tellement de doctrines. La doctrine du purgatoire, on va en enfer pour un temps et ensuite, on va être purifié là-bas et on ira au paradis. Non, c'est une fausse doctrine. La doctrine de l'excès de la place de Marie. Marie qui devient un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est une fausse doctrine. Vous voyez, il y a tellement de fausses doctrines. Les séductions, il y a eu un moment, il y avait des prédicateurs qui faisaient sortir les pailles, les paillettes d'or sur les mains des chrétiens. On prie dans la salle et puis on dit, regardez vos mains. Et les gens regardent et effectivement, ils ont des visions des paillettes d'or sur les mains. D'accord? Et après, qu'est-ce que ça apporte dans leur vie? Qu'est-ce que ça change d'avoir des paillettes d'or dans les mains? Ça change quoi? Jésus veut des cœurs transformés. Dieu veut des cœurs qui soient réconciliés. La Bible nous dit que Jean avait été envoyé pour préparer les cœurs des hommes, pour ramener les cœurs des enfants vers les pères. Parce que les hommes s'étaient détournés de Dieu. Et quel est l'évangile que Jean va prêcher? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il va dire aux gens, pratiquez des œuvres dignes de la repentance. C'est ce que Dieu attend des hommes, que les hommes pratiquent les œuvres dignes de la repentance. Revenir au Seigneur. Tu ne peux pas être chrétien, voler. Tu ne peux pas être chrétien, pratiquer le mensonge. Quand on dit pratiquer le mensonge, c'est que tu mens consciemment. On ne parle pas de tu as été dans une situation sous pression et puis bon, tu as menti et tu as demandé pardon. Mais tu pratiques, tu médites que bon, là je vais partir, là je vais dire ça, je vais dire ça. Tu pratiques le mensonge, tu pratiques le péché. Tu vis dans le péché, dans l'impudicité. Tu couches avec les femmes dehors, tu couches avec les hommes dehors, tu couches avec un homme, avec une femme, avec qui tu vis. Vous n'êtes pas mariés. Vous êtes dans le péché. On doit vous le dire. Et si vous mourrez comme ça, vous irez en enfer. C'est ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible est claire. Ni les impudiques, ni les efféminés, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Si vous estimez qu'on vous juge, frères et sœurs, nous vous disons la vérité par amour. Et l'amour dit la vérité à son prochain. C'est l'amour. Donc il y a tellement toute cette doctrine-là aujourd'hui qui viennent enlever les chrétiens de la place que Dieu veut qu'ils aient. Toutes ces doctrines bizarres. Et regardez qu'est-ce que la Bible nous dit. On va prendre un autre passage. Hébreux chapitre 13. À partir du verset 9. La Bible dit, « Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. » Ça veut dire qu'il y a des doctrines qui sont étrangères à la doctrine de Christ. Il y en a certaines qu'on a déjà citées là. Pour être béni, il faut donner la dîme. Pour bénir Dieu, Dieu n'a pas besoin que quelqu'un donne l'argent pour bénir. Dieu a besoin que tu sois obéissant. Si ton obéissance, c'est que Dieu veut que tu puisses donner ton argent, donne l'argent. Si Dieu t'appelle à beaucoup donner, à beaucoup s'aimer, donne. Parce que c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Et Dieu nous appelle tous, enfants de Dieu, à contribuer à avoir de la compassion, par exemple, pour les pauvres. Donc, s'il y a des actions à faire pour aider son prochain, nous le faisons simplement en tant qu'enfants de Dieu parce que nous avons l'amour de Dieu à nous. Mais la bénédiction de Dieu ne va pas dépendre de la quantité d'argent qu'on va donner. On n'achète pas la grâce de Dieu. Maintenant, par rapport à la quantité d'amour que tu as, plus que tu aimes beaucoup le Seigneur, tu peux beaucoup donner. Mais ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup sans que ton cœur ne soit 100% au Seigneur que Dieu va te bénir. Ça n'a rien à voir. Dieu va te bénir parce qu'il est Dieu, parce qu'il bénit qui il veut. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Maintenant, on comprend que quand quelqu'un aime le Seigneur, deux personnes qui aiment le Seigneur et à qui Dieu demande de donner et qu'il y ait un qui se dispose à plus donner, évidemment, Dieu regarde la disposition de son cœur. Ça, nous sommes d'accord, c'est biblique. La Bible dit « Celui qui sème peu, moissonne peu ». Mais cette semence qui est bénie par Dieu dépend du niveau d'obéissance et de la sainteté qui accompagne cela. Donc, ce n'est pas simplement donner. Parce que pourquoi on ne déforme pas mes propos en disant « on ne doit plus donner ». Non, les chrétiens peuvent donner et doivent donner dans les véritables églises parce qu'il y a des choses à faire pour l'œuvre de Dieu. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais on ne doit pas vous imposer des montants à donner. En vous disant « il faut acheter la grâce de Dieu ». Il y a une grâce particulière pour ceux qui vont donner, prendre une enveloppe de 5 millions. Il n'y a pas de grâce particulière, frères et sœurs. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et puis, on a le sentiment que quand on arrive, on dit, bon, on va quand même, bon, comme par pitié, on va donner des enveloppes de 50 000 aux gens. Hein? On ne peut pas descendre en dessous de 50 000. Ça là, ce sont des fausses doctrines. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Ça n'a rien à voir. Quand vous voyez ça, enlevez vos corps. Oui. La Bible dit que ne vous laissez pas entraîner par des doctrines étrangères. Hein? Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien, de rien, à ceux qui s'y sont attachés. Oui, il y a des doctrines qui sont liées à la nourriture. Un chrétien ne mange pas ci, un chrétien ne mange pas ça, un chrétien ne mange pas le silure, un chrétien ne mange pas ça. Il y a des églises où on enseigne ça. Vous voyez, Ce n'est pas normal. Il faut laisser les chrétiens libres. Nous ne sommes plus sous la loi. Des églises, l'on demande aux chrétiens de ne pas travailler le samedi parce que c'est le sabbat. Nous ne sommes plus sous la loi. Laissez les chrétiens aller travailler. Chrétiens, il n'y a plus le sabbat. Jésus-Christ est notre sabbat. Donc maintenant, tu peux aller travailler le samedi. La Bible nous dit que quiconque observe un commandement de la loi et n'observe pas les autres commandements se rend coupable de toute la loi. Donc si tu décides de suivre ce commandement, il faut que tu suives tous les commandements de la loi. Or, le problème de la loi, c'est que quand vous lisez Actes chapitre 15, les apôtres vont écrire en disant que « Comment avez-vous pu imposer aux disciples un joug que ni nous, ni nos pères n'avons pu supporter ?» Donc, frères et sœurs, les Hébreux qui sont nés dedans, qui ont grandi dedans, n'ont pas pu tenir. Ce n'est pas nous qui sommes Gabonais ou d'une autre nationalité qui pourrons tenir dans la loi. Il faut libérer les chrétiens. Un autre passage, pour montrer bien que ces avertissements-là, oui, ont été écrits par beaucoup de personnes. On a Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 6. Je lis, « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Que personne ne vous séduise par des vains discours. Il y a des gens qui sont des vains séducteurs, des prédicateurs avec la langue fourchue. Et ils sont bien armés pour séduire les chrétiens. Des très bons parleurs, des très bons séducteurs. Vous voyez? Et ils vont mettre plein de choses autour pour vous séduire. Frères et sœurs, le problème aujourd'hui avec les chrétiens, vous savez, il y a un truc. Les chrétiens n'aiment pas la vérité. Les chrétiens aiment, par exemple, quand je dis les chrétiens, c'est même un abus. L'homme, parce qu'un véritable chrétien, il aime la vérité. Donc je vais dire l'homme qui a en lui la nature du péché n'aime pas la vérité. Et comme il n'aime pas la vérité, il va aller dans un endroit où on va tout faire pour lui dire une demi-vérité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vérité qui est dite, mais elle n'est pas entière. Et puisqu'il a quand même ce sentiment de demi-vérité, ça le permet de se consoler en se disant « Je connais la vérité ». Mais ne me juge pas. Et c'est ce que vous allez voir, par exemple, c'est ce que les gens qui vivent dans l'impudicité sexuelle vont toujours dire pour dire « Oui, mais Dieu connaît, non ? Il faut que je régularise ma situation devant le Seigneur. » Vous voyez ? Et Paul va plus loin au chapitre 5, toujours en disant, verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Jérémie chapitre 29. La Bible dit, à partir du verset 8, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. En mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Donc, à l'époque déjà de Jérémie, il y avait des gens qui prophétisaient alors que Dieu ne leur avait pas envoyé. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans les églises qui prophétisent. Moi, je me souviens, il y avait une sœur qui venait à nos réunions de prière. Elle prophétisait. Elle tombe à terre, elle s'enroule, elle prophétise. Et tout le monde écoute. Mais comme les gens avaient été enseignés que ne donnez pas de foi à toute prophétie, mais examinez, on examine les prophéties. Mais quand on la contredisait, elle se fâchait. Quand on disait que non, ok, tu as prophétisé, mais ta prophétie n'est pas en accord avec les Écritures. Donc, ça là, on prend, parce que c'est biblique, mais ça là, on ne prend pas. Ou bien on rejette tout ça, parce que ce n'est pas en accord avec les Écritures. Vous voyez, c'est des choses que les gens n'acceptent pas quand ils fréquentent les églises. Mais ce n'est pas parce que tu vas dire « Ainsi parle l'Éternel » qu'on doit accepter tout ce que tu dis. Et quand on fouillait, enfin on n'a pas fouillé, en la fréquentant et en apprenant à la connaître, ben, on a découvert que tout le temps qu'elle nous fréquentait là, elle était dans l'impudicité. Mais elle prophétisait. Donc là, les prophéties, là, ça venait de Dieu ou ça venait du diable? Ça venait du diable. Et celle-là, si on l'avait laissée s'installer dans l'église en la nommant prophétesse, Elle allait envoûter toutes les personnes dans l'église. Et dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens là qui sont prophètes, prophétesses là. Ils ont l'esprit de Python. C'est Python qui les anime. Ils ont l'esprit de Python. Et ils prophétisent, ils disent des demi-vérités. Comme c'était le cas dans Actes chapitre 16. La femme qui prophétisait sur Paul. Ces hommes sont des serviteurs de l'Éternel. Écoutez ce qu'ils vous disent. C'était vrai, 100%. Le seul problème, c'est que sa prophétie ne glorifiait pas Dieu. Ça glorifiait les hommes. Et au bout de quelques jours, Paul va se sentir agacé. Et il va chasser l'esprit qui était en elle. Pourtant, elle prophétisait. Elle disait que c'était des serviteurs de l'Éternel. Mais elle disait, écoutez ce qu'ils disent. Elle ne renvoyait pas. En fait, écoutez ce qu'ils disent. Ça avait une connotation de attachez-vous à eux. Ouais, alors que la Bible doit nous amener, les prophéties doivent nous amener à nous attacher à Dieu et non aux hommes qui amènent la prophétie. Et vous voyez, il y a un élément qui est important dans le passage de Jérémie. C'est que la Bible dit, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des songes sur vous, des prophéties sur vous, des visions sur vous, parce que vous les avez provoqués à les faire. Quand vous allez les voir pour leur dire tout le temps, « Frère, tu as reçu quoi pour moi ?»« Frère, vraiment, prie pour moi que Dieu te révèle quelque chose pour moi. » « Seigneur, localise-moi. » J'écoute parfois là certaines émissions là. « Dis, Seigneur, localise-moi. » C'est quoi ça ? Dieu ne sait pas que tu es au Gabon, que tu es dans tel quartier. Dieu ne connaît pas ton nom. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu connaît où tu es. La Bible dit, avant que la parole ne sorte de ta bouche, de ma bouche, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est quoi on a besoin de dire aux gens ? Seigneur, dis au Seigneur de te localiser. Vous voyez ? Ça là, ce sont des pratiques. Ce sont des esprits en fait qu'on incante. On dit Seigneur, mais c'est des esprits. Et ces esprits-là rentrent en contact avec votre esprit et communiquent des choses à ces gens-là qui font. Ce n'est pas des prophéties qui viennent de Dieu. C'est tout ça là, c'est de la magie. Ça va vous choquer, mais c'est de la magie. Dieu n'a pas besoin de vous localiser. Dieu connaît qui vous êtes. La Bible dit, il compte, il connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Frère, Dieu connaît le nombre de cheveux sur notre tête et c'est l'endroit où nous sommes, que Dieu ne saura pas où nous sommes. Vous voyez ? Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui fréquentent les églises ne sont pas convertis ou quand ils sont convertis, ne sont pas enseignés. Et comme ils ne sont pas enseignés, ils sont entraînés à tout vent de doctrine. On va prendre encore quelques passages et puis on va s'arrêter par là. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 18. Qu'aucun homme, sous une forme d'apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui amènent à la satisfaction de la chair. Rien à voir avec l'esprit, c'est la chair. Ce sont des traditions d'hommes. Rien à voir. Et la Bible dit, prenez garde à ces choses-là. Je vais lire un autre passage dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, alors je vais lire à partir du verset 17. « Vous donc bien-aimés, qui avez été avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, j'ai eu l'occasion de discuter avec des frères qui priaient avec moi dans une église, je ne vais pas citer le nom. Et ces frères-là étaient à l'école biblique, l'école pastorale. Et par la grâce de Dieu, quand je venais de me convertir, j'ai eu la chance de commencer à marcher avec eux, qui étaient considérés comme nos aînés dans la foi. Et ils m'ont dit, tu sais, comme on est très proche de toi, on va te dire une vérité qu'on nous a dit à l'église, mais enfin, à la formation à l'école biblique, mais qu'on ne peut pas enseigner publiquement. En fait, tu sais, tu peux coucher avec une femme à condition que ce soit la femme que tu as choisie pour être ta femme. Tant que c'est elle que tu as choisie et que vous allez vous marier, ce n'est pas un péché. Je vous assure, cette semence-là était restée dans mon cœur et ça mijotait. Et heureusement, Dieu m'en a délivré. Et je m'étais rendu compte après que certains de ces frères-là, pas tous, parce que je n'avais pas enquêté, mais c'est des choses qui ressortaient. J'écoutais avec d'autres jeunes qu'effectivement, il y avait X qui était fiancé avec telle autre personne et que la sœur avait avorté. Ça veut dire qu'ils avaient couché, ils couchaient ensemble et la sœur était tombée enceinte et elle était allée avorter. Vous voyez, des choses comme ça, c'est des choses qu'on rencontre dans l'église. Et si une sœur comme ça meurt parce qu'elle allait faire un avortement et que ses parents viennent faire un tapage dans l'église, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez un peu? Donc il faut vraiment, vraiment qu'on fasse très, très attention. Il faut vraiment qu'on fasse très attention. Parce qu'aujourd'hui, les temps sont graves. Jésus nous a avertis. Paul va dire dans l'épître aux Philippiens au chapitre 3, il va dire, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Il y a beaucoup qui mettent la confiance en la chair, qui passent le temps à raconter leur voyage. J'étais aux États-Unis, en business class, en ceci. Avec votre argent, hein, que vous allez travailler, vous-même, vous n'avez jamais voyagé. Lui, quand il voyage, il est en business class. Le billet, c'est 4 millions parce que c'est l'homme de Dieu. Tout ça là. C'est des choses qu'on va dénoncer. On va les dénoncer pour avertir les chrétiens et interpeller ces prédicateurs-là qui sont des véritables prédicateurs. Ils se reconnaîtront, ils se laisseront interpeller. Ceux qui ne sont pas des véritables prédicateurs, qui sont les envoyés du diable, ils vont continuer dans leurs choses parce qu'ils font les œuvres de leur père. Voilà. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits qu'il porte, les fruits, la sainteté, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la justice. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un pasteur, il y a des gens qui souffrent dans ton église, toi, tu es là, tu roules en VX, V8, une voiture qui va consommer 300 000 de carburant tous les mois dans une petite ville comme Port-Gentil. Où en réalité, tu peux venir avec une berline, une petite voiture, une petite Hyundai tranquillos qui peut consommer, je ne sais pas, 30 000, 10 000 de carburant par semaine. Une petite voiture qui peut coûter 4, 5 millions. À la limite, si la personne travaille en plein temps, on peut lui acheter. Mais on va lui acheter un véhicule qui coûte énormément d'argent. Neuf, c'est peut-être 50 millions. Occasion, c'est peut-être 30, 40 millions. Alors qu'il y a des gens qui souffrent dans l'église. Si la personne travaille et qu'il paye avec son argent, il n'y a pas de problème, c'est son argent, il travaille. Mais quand c'est avec l'argent des fidèles, il y a un problème. Et toutes ces choses-là, derrière, quand il y a déjà ça, souvent derrière, il commence à avoir des doctrines bizarres pour que les gens donnent davantage. On habille des costumes de 200 000, des costumes de 300 000, des 400 000, des 500 000. Les enfants du pasteur doivent être au lycée français, mais les enfants des autres, ils sont où? Ils sont dans quelle école? Toutes ces choses-là, quand vous voyez ça là, il faut comprendre que derrière, il y a déjà le diable qui a pris possession. Le diable s'est déjà installé et a pris possession, frères et sœurs. Nous devons revenir à la vérité et veiller sur nos âmes. On doit veiller sur nos âmes. Alors, je vais terminer par le passage de Colossiens chapitre 2, verset 8. Il est écrit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Donc, on peut faire de vous la proie par une philosophie. Aujourd'hui, il y a une philosophie qui s'est installée dans l'Église. On prêche l'Évangile en ouvrant la Bible, mais c'est la philosophie qu'on vous prêche. Je vais vous donner un exemple de philosophie. Un jour, j'ai assisté à un séminaire dans l'église, une église où je priais quand je venais de me convertir, il y a beaucoup d'années derrière. Et c'était un séminaire, le prédicateur disait, « Vous savez, on ne dit pas toutes les vérités. » Il a pris l'exemple, pas à moi, mais quand il prêchait, il a pris l'exemple d'une femme qui était mariée à un homme et qui aurait, selon l'histoire, qui aurait trompé cet homme et a fait plusieurs enfants, des grossesses qu'elle a attrapées à l'extérieur parce qu'apparemment le monsieur n'était pas fertile. Donc, elle allait avec deux hommes à l'extérieur, elle attrapait des grossesses et elle attribuait la grossesse au mari avec qui elle vivait, à l'homme avec qui elle vivait. Et quand elle s'est convertie, elle est allée voir son pasteur et le pasteur lui a demandé de ne pas dire à son mari parce que si elle disait à son mari, elle allait détruire son couple. Et le prédicateur nous disait, ça a été sage de ne pas dire à son mari. Mais dans le monde, on a des histoires où, par exemple, un enfant est malade, il faut lui faire, par exemple, une greffe osseuse, et on dit aux parents, il faut donner l'os. Je ne sais pas si c'est l'os qu'on donne ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a des choses qu'on doit prendre dans le corps du père pour soigner l'enfant. Et on prélève et on fait les examens pour voir la compatibilité. Donc, on vérifie quand même par prudence. Et quand ça passe à l'examen, ben on se rend compte que ce n'est pas son enfant. Bon, imaginez la femme cache et un événement comme ça arrive. Et on se rend compte que ce n'est pas son enfant et qu'on dit au père, mais monsieur, on ne peut pas prendre, par exemple, votre os ou bien votre moelle épinière pour la mettre à votre enfant parce que vous n'avez pas la même moelle. Le père va dire, mais pourquoi? C'est mon fils. Ah, monsieur, écoutez, et s'il demande le test de paternité et qu'il se rend compte que ce n'est en rien son enfant, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui va se passer? Comment cette femme qui est devenue chrétienne justifiera-t-elle cela à son mari? Vous voyez? Nous sommes des enfants de lumière. Et ça, c'est la philosophie. Il a expliqué par sa propre pensée que c'était correct de ne pas dire. Mais selon les Écritures, la Bible nous dit qu'il faut restaurer. La Bible nous enseigne que Jachée avait volé. Et Jachée va dire, « Seigneur, si j'ai volé, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends, je crois, le double de ce que je lui ai pris. » C'est ça être chrétien, c'est restaurer. Sinon, on dira quoi un chrétien? Tu as volé hier, tu as cassé dans la maison de ton voisin, tu as pris une télévision, c'est dans ta maison, tu ne l'as pas encore vendue, tu t'es converti dans la nuit, le même jour où tu as volé, Dieu t'a visité, et le lendemain, tu gardes la télé dans ta chambre? Non, il n'en est pas question. Tu dois aller rendre la télé que tu as volée, même si on doit t'amener dans un commissariat. Tu dois aller la rendre. Donc, c'est juste. Et vous voyez, des telles philosophies, aujourd'hui, on l'enseigne dans l'Église. Et malheureusement, quand tu n'es pas enseigné, ben, tu vas prendre cette vérité et tu vas la vivre. Et malheureusement, tu ne vis pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc, la Bible nous dit ici que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Appuyons-nous sur Christ. Fondons notre foi sur Christ. Appuyons-nous sur le Seigneur et sur sa parole. Vivons selon la doctrine du Seigneur et vous aurez la délivrance si vous cherchez la délivrance. La guérison, si vous cherchez la guérison. Dieu peut susciter quelqu'un, même dans la route, un chrétien pour prier pour vous. L'ange de Dieu peut vous visiter. La puissance de Dieu peut vous guérir. Dieu fait comme il veut. Il peut susciter un véritable prédicateur pour prier pour vous, pour que vous soyez guéris. Mais toutes ces choses-là sont secondaires. Obéissez au Seigneur. Marchez selon la voie du Seigneur et ne vous laissez pas tromper par les hommes. aux prédicateurs, mes frères chrétiens prédicateurs, restaurons l'Église, revenons à la vérité et à la simplicité de l'Évangile. Dieu ne nous appelle pas à rentrer dans toutes ces choses compliquées et à faire en sorte qu'aujourd'hui, on soit en train de blasphémer le nom de Dieu. Dieu va réprimander David à cause de ça. Il va dire, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, l'Éternel va frapper dans ta maison. Frères et sœurs, faisons attention à ce que nous faisons. Aux chantres qui deviennent des commerçants de l'Évangile, qui deviennent des commerçants de la musique, qui deviennent des professionnels comme les chanteurs du monde, revenez à la simplicité. Les cantiques que vous recevez, ce sont les cantiques qui sont censés avoir été inspirés par le Saint-Esprit et non par votre intelligence. Arrêtez de vendre les concerts chrétiens. Ah, si vous voulez vendre la musique, je ne sais pas, si vous avez le don de chanter, créez une école de musique en dehors de votre activité religieuse, enseignez la musique, il y a des enfants qui veulent apprendre à chanter, des choses comme ça. Dieu vous a donné un don, enseignez les gens à chanter. Vous pouvez ouvrir une école de musique, ça devient une activité lucrative qui peut vous permettre de vivre. Vous voyez? Mais ne vendez pas la musique. Apprenez, si vous jouez d'un instrument, ouvrez une école de musique, vous formez les gens, le solfège et tout le reste, mais ne vendez pas la musique. Aux pianistes qui deviennent des gombomanes, qui vont d'église en église pour aller jouer, pour avoir les gombos. Le don que Dieu vous a donné, les doigts que vous utilisez pour mettre sur le piano, là, sur la guitare, sur la batterie, ça vient de Dieu. Dieu peut vous reprendre ça du jour au lendemain. Craignez Dieu, craignons Dieu et revenons à la simplicité de Dieu. Aux anciens, aux diacres qui sont dans le vol, qui volent dans la caisse de l'église et qui mettent l'argent dans leur poche, rendez l'argent du Seigneur. C'est l'argent que les frères et sœurs vont travailler. Répentez-vous, confessez ça publiquement que vous avez volé l'argent de l'église et laissez la caisse de l'église parce que vous n'êtes pas digne. Rendez l'argent du Seigneur. Craignez Dieu parce que le jugement sera grave, frères et sœurs. Ne jouons pas. Nous allons tous passer devant le tribunal de Christ. À ceux qui marchent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, continuez à persévérer. Demeurez ferme et encouragez ceux-là qui se laissent entraîner par des choses qui ne sont pas correctes à marcher dans la vérité de l'Évangile. Et tous, ensemble, fortifions-nous les uns les autres. Ceux qui sont faibles, encourageons-les. Les vrais pasteurs, priez pour eux, pour qu'ils demeurent dans la sainteté, qu'ils demeurent fermes dans la vérité, qu'ils ne se corrompent pas, qu'ils ne se détournent pas. Pour les faux, priez pour eux pour qu'ils se repentent, avertissez-les et s'ils ne comprennent pas, dénoncez-les. La Bible est claire dans Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il refuse de t'écouter, prends avec toi un ou deux témoins, car toute affaire se réglera sur la déposition de deux ou de trois témoins. S'il refuse d'écouter les témoins, dites-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église et de se soumettre à l'Église, traitez-le comme un païen, un publicain. C'est-à-dire les anciens règlent ça et mettez-le dehors. Alléluia. Donc soyez bénis. Bonne soirée à vous. Et que le Seigneur vous garde et à très bientôt.